Infertile Cast, the Barcelona IVF podcast.
Bienvenue dans ce nouveau podcast de Barcelona IVF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène qui va nous parler de la vitrification des ovocytes et de son expérience à la clinique. Bonjour Hélène, merci de venir nous parler de la vitrification des ovocytes aujourd'hui et puis surtout de votre expérience.
Bonjour.
Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est la vitrification des ovocytes?
Oui, bah bien sûr. Alors, pour vous donner ma propre définition, parce que je pense que chacun pourra simplement aller regarder sur Internet en quoi est-ce que ça consiste. Pour moi, en fait, c'est un acte de préservation, et j'irai même plus loin, c'est un acte d'extension de sa fertilité. Donc voilà, à travers la congélation des ovocytes, donc la cryopréservation, si j'ai utilisé le bon terme.
Tout à fait. Donc en fait, voilà, la vitrification des ovocytes, c'est une technique qui permet donc de congeler et même donc de vitrifier à -196 degrés les ovocytes. C'est ça, c'est bien ça?
Oui, voilà, c'est ça.
Et pourriez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé justement de cette préservation, extension de votre fertilité?
Alors pour vous expliquer un peu, en fait, j'ai eu un déclic ou alors une discussion qui m'a un peu amenée à entreprendre cette démarche à la veille de mes 35 ans. En fait, j'étais en train de déjeuner avec une amie qui m'a en fait posé cette question, pourquoi est-ce que tu ferais pas ça? Et c'est vrai que j'étais à un stade dans ma vie où je rentrais de 8 ans d'expérience professionnelle à l'étranger et je venais juste de rentrer en France et j'avais toujours gardé ça un peu dans un coin de ma tête mais sans y penser réellement. Et en fait, à la veille de mes 35 ans, j'y ai repensé de façon beaucoup plus soutenue, comme si voilà, à mes 35 ans, j'avais une espèce de barrière psychologique où je m'étais toujours un peu dit à 35 ans, je serai maman. Et puis en fait, la vie a eu d'autres plans pour moi. Et puis donc voilà, j'avais pas forcément rencontré le bon partenaire non plus à ce moment-là. Donc je me suis dit pourquoi pas finalement opter pour cette option qui est une option qui permet d'avoir plus de choix, plus de liberté. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant par rapport à mon cas de figure. Donc je me suis lancée en fait dans une prise d'information. J'ai commencé à lire un livre qui avait été écrit par une personne qui avait fait cette démarche, c'était une journaliste qui a fait cette démarche, j'ai plus le nom en tête. Et puis, mon amie qui m'en a parlé, elle a eu recours à une FIV, donc c'est vrai qu'on a un peu échangé sur le sujet, et puis elle m'a transmis les coordonnées de sa gynéco qui l'avait suivie, en fait. Donc tout a commencé comme ça.
D'accord, et en fait, c'est votre amie qui vous a parlé de cette technique?
Oui et non, c'est-à-dire qu'à travers la FIV, elle a eu recours en fait à la ponction d'ovocytes, donc ces ovocytes ont été ponctionnés et ensuite ils ont été fécondés puis vitrifiés, donc on en a un peu parlé, et après j'ai pris rendez-vous chez sa gynéco, et donc au travers de ce rendez-vous que j'ai eu plus d'informations.
D'accord, c'est la gynécologue en fait qui vous a expliqué plus en détail ce que c'était, etc., sachant que vous n'aviez pas la possibilité de le faire en France.
Pardon, exactement, puisque j'ai pas de problème de fertilité en fait, donc il ne m'est pas donné en fait la possibilité de préserver en fait ma fertilité en France, puisque de base je n'ai pas de problème. Donc je me suis dit très bien, encore une fois, je ne suis pas éligible, mais il y a d'autres solutions et l'Espagne c'est pas si loin que ça finalement, quoi.
D'accord. Oui, en fait, quand vous n'aviez pas d'indication médicale, en France, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est là que vous êtes renseigné pour aller en Espagne. Et pour vous, ça a été une décision facile à prendre, finalement, d'avoir recours à cette technique?
Facile, je ne sais pas. En tout cas, ça a pris du temps. C'est-à-dire entre le moment où j'ai eu cette fameuse discussion et le moment où j'ai... où la ponction a eu effectivement lieu, il s'est passé un délai plutôt de 1 an et demi, sachant qu'au début, j'ai commencé j'ai entrepris tous les bilans de fertilité, donc que ce soit par les prises de sang ou les, le comptage en fait de follicules, donc via l'échographie pelvienne. Là, ça a commencé comme ceci. Après, j'ai eu en fait, simultanément en fait, j'ai découvert que je devais subir une petite intervention chirurgicale. Enfin, pour rien vous cacher, j'avais un polype à l'utérus qu'il fallait faire enlever d'abord. Donc voilà, il y a eu plusieurs étapes, etc. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut il faut être disponible physiquement, mentalement, etc. Que ça soit le bon moment par rapport à mon organisation, au travail et puis dans ma vie personnelle aussi. Donc c'est vrai que ça a pris un peu de temps et puis j'étais pas forcément extrêmement pressée et je pense que ce temps-là finalement m'était nécessaire pour me préparer aussi psychologiquement finalement et puis être bien sûr de ma décision.
D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller en Espagne et pas forcément dans un autre pays et pourquoi à Barcelona IVF ?
Alors, c'est vrai que j'aurais pu aller à Bruxelles, ce qui est je réside à Paris, donc depuis Paris, c'est peut-être un peu plus simple logistiquement parlant. Mais en fait, j'ai choisi d'aller en Espagne et j'ai choisi cette clinique puisque, en fait, c'est encore une fois ma gynéco qui avait suivi une patiente qui avait été en fait dans cette clinique. Donc, c'est elle qui m'a donné les coordonnées finalement de votre établissement. Et puis, je sais pas, en fait, j'avais aussi cette association de Barcelone, l'Espagne, c'est un endroit agréable, etc. Donc, ça m'était plus plaisant, en tout cas, de faire cette démarche-là à cet endroit. Donc, j'ai pas forcément... les choses se sont déroulées, en fait, de façon assez, assez simple.
D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler des différentes étapes du traitement, un petit peu combien de temps, vous avez pris des médicaments, quelles sont les différentes étapes, la ponction, combien de fois vous avez dû vous rendre en Espagne?
Alors oui, donc déjà pour commencer avec les différentes étapes, tout commence par l'étape préliminaire qui est le bilan de fertilité pour savoir déjà où est-ce qu'on en est. Une fois que l'étape est passée, j'ai eu un entretien Skype avec une docteure de votre clinique. Et puis, par la suite, donc on a décidé d'un traitement. Enfin, elle a décidé plutôt, parce que moi, je n'ai pas du tout décidé. Elle a décidé d'un traitement. Et en fait, ça a consisté, dans mon cas, à une grosse dizaine de jours, voire deux semaines, d'injection, couplée avec des échographies pelviennes à faire, quelques prises de sang également. Et en fait, moi, je me suis fait accompagner par un cabinet d'infirmiers. Je me sentais pas du tout de faire les injections seule. Donc, j'avais vraiment toute une équipe d'accompagnateurs professionnels. Ouais. Et ça a beaucoup facilité, en fait, ma démarche. Je me suis pas du tout sentie seule. J'ai été aussi très accompagnée dans ma vie perso. Donc, le traitement s'est très bien passé. Et ensuite, je me suis rendue en Espagne. Alors moi, c'était un peu particulier parce que je me suis rendue en Espagne dans des conditions de transport qui étaient pas forcément facilitées avec le Covid, etc. Donc pour essayer d'anticiper un maximum avec les tests PCR, je me suis rendue en Espagne un vendredi et ma ponction a eu lieu un mardi. Donc j'ai eu le temps quand même j'ai pu passer un peu de temps sur place à Barcelone pour aussi profiter du beau temps et me détendre le temps d'un week-end avant l'intervention.
D'accord. Et vous êtes finalement venu en tout et pour tout une seule fois à Barcelone,
oui, c'est ça? Tout à fait, voilà, c'est ça. En fait, j'avais eu plusieurs entretiens. Enfin, j'ai vu la docteure par Skype une autre fois, donc je ne voulais pas préciser. Donc, je l'ai vue deux fois au total par Skype. Et après, je l'ai vue à mon arrivée, en fait, sur place, puisqu'on a fait une autre écho avant l'intervention. Et puis, je l'ai vue, bien évidemment, le jour de l'intervention. Donc oui, je me suis déplacée une seule fois en Espagne. Voilà.
D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de la ponction, comment est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce que vous étiez endormie? Est-ce que vous avez eu mal? Comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est bien passé déjà. Et oui, j'ai été endormie. Donc, c'est une petite anesthésie générale. Je dis bien petite parce que j'ai été moi-même agréablement surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'entre le moment où je suis allée en salle... en salle d'opération et le moment où j'étais en salle de réveil, il s'est écoulé en tout et pour tout 25 minutes. Donc, ça a été extrêmement rapide. Et pour une ponction voilà, de 10 ovocytes. Donc, ça a été hyper rapide. Et à mon réveil, je n'étais pas du tout... je me suis réveillée très vite. En fait, j'avais une très faible dose, aucune douleur. Donc, très agréablement surprise par la ponction en tant que telle. C'était la chose que j'appréhendais le plus, finalement. C'est jamais agréable hein, de se faire endormir. On a tout un tas de peurs. Enfin, en tout cas, j'avais tout un tas de peurs associées à cette fameuse anesthésie. Et puis, en fin de compte, une fois que ça a été passé, je me suis rendu compte que le plus dur, c'était pas du tout la ponction, mais c'était plutôt toute la phase, justement, organisation des 2 semaines avec les injections, le traitement en tant que tel, qui n'est pas toujours confortable, on ne va pas se mentir. Et puis, il faut être hyper organisé. Ça demande quand même pas mal d'organisation avec tous les différents corps de métier, enfin, tous les différents médecins, en fait, qu'il faut consulter simultanément. Donc, le plus dur, c'est vraiment pas la ponction, c'est en fait l'organisation.
Finalement, c'était. Vous appréhendiez le jour de la ponction, et finalement, c'était vraiment. Vous n'avez rien senti, c'était rapide, etc. Finalement, le plus compliqué dans tout ça, c'était de commencer le protocole, les injections. Ouais. Parce que vous avez dû aller faire des échographies tous les 2-3 jours, pour voir comment évoluer en fait la stimulation ovarienne. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué à organiser.
C'est de l'organisation, mais après c'est pas douloureux. Enfin voilà, c'est oui, tout à fait.
D'accord. Et maintenant, donc ça fait quelques mois que vous avez fait votre ponction. Avec du recul, comment est-ce que vous vous sentez de savoir que voilà, vous avez pu faire ce traitement et préserver votre fertilité?
En fait, tout d'abord, je suis super fière de moi d'avoir franchi le pas, parce que je connais pas tellement de personnes qui l'ont fait, donc c'est vrai que. Enfin, j'ai une amie qui l'a fait, j'en avais beaucoup parlé avec elle. Et en fait, ça me paraissait quelque chose de, d'assez important à réaliser. En tout cas, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc, c'est un projet qui m'a pris 1 an et demi. Donc, j'étais hyper fière déjà d'avoir été au bout. Et puis, après, tout de suite, un sentiment, dès que la ponction a eu lieu, je me suis tout de suite sentie. Hyper soulagée, et voilà, je trouve que ça m'enlève une sorte de poids ou de pression, et je sais que même si voilà, le fait d'avoir réalisé cet acte, finalement c'est pas une assurance un jour à 100% d'avoir un enfant, mais en tout cas je suis hyper je me sens plus légère à l'idée de me dire que voilà, j'ai plus le choix et j'ai mis toutes les chances de mon côté, quoi. Donc ça me laisse plus de temps, surtout de pas me précipiter dans ma vie et de faire les bons choix pour les bonnes raisons, en tout cas. Donc pour répondre à votre question, c'est déjà fier, et puis après hyper soulagé / rassuré, quoi.
Voilà. Et pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes qui nous écoutent et puis qui se demandent si la vitrification des ovocytes en fait est une bonne option?
Ce que j'aimerais dire, c'est que je regrette en fait qu'on n'ait pas assez d'informations à ce sujet. Enfin, moi, finalement, si j'ai réalisé cet acte, finalement, ou cette opération, c'est parce que en fait c'est quelqu'un en fait qui m'en a parlé, donc dans mon entourage. Mais c'est vrai que j'aurais très bien pu passer à côté. Donc, j'aimerais que les femmes puissent avoir plus d'informations à ce sujet, que ça soit moins tabou surtout. Et c'est vrai qu'en France, ça reste un sujet qui devrait être beaucoup plus... Enfin, c'est un sujet préoccupant et pourtant, on n'en parle pas assez. C'est la troisième révolution sexuelle, si on réfléchit bien. C'est ridicule qu'on puisse accéder à cela dans d'autres pays et pas en France, qui est quand même un des pays les plus avancés. Ce que j'aimerais dire, c'est que, encore une fois, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère, qu'il ne faut pas rater le coche, sans vouloir mettre la pression, bien évidemment. Mais c'est vrai que je connais aussi beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de personnes qui, à l'âge de 40 ans, se réveillent en se disant j'aimerais faire un enfant avec mon partenaire ou son partenaire. Enfin, bref, ça, c'est l'histoire de chacun. Et on se rend compte que finalement, Les ovocytes sont de moins bonne qualité et en quantité, ben, c'est plus vraiment ça. Donc, c'est vraiment dommage à quelques années près de dire qu'on aurait pu se laisser plus de chance et peut-être avoir un peu plus le temps, effectivement, de réfléchir à ce genre de sujet, quoi. C'est quelque chose qui s'anticipe un petit peu. Donc, voilà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu une expérience qui s'est très bien passée et ça s'est très bien passé également. À la clinique IVF, parce que c'est un établissement qui est de taille humaine, où j'ai eu un super accompagnement. Donc, voilà, je pense que mon expérience au global a été extrêmement positive et je ne regrette pas du tout. Et j'encourage toutes les femmes, en tout cas, qui nous écouteront, de réfléchir à ce sujet et en tout cas à se dire que ça peut être une option, ce n'est pas du tout obligatoire. Et il n'y a rien de plus naturel que de se dire qu'un jour, on peut vouloir un enfant, même si on n'a pas aujourd'hui toutes les cartes en main. Et se dire que ça peut être quelque chose qui peut nous aider dans le futur d'avoir réalisé cette opération.
D'accord. Très bien. Écoutez, en tout cas, Hélène, un grand merci d'avoir partagé votre expérience, d'avoir expliqué un petit peu aux femmes qui nous écoutent ce qu'est la vitrification des ovocytes et concrètement un petit peu comment ça se passe, parce que je pense que effectivement dans la mesure où c'est une technique pour l'instant qu'on ne peut pas faire en France pour des raisons qui sont non médicales, il y a beaucoup de femmes qui pourraient en bénéficier, mais qui ont peu, comme vous l'avez dit, d'informations, et puis des fois quand ils n'ont, on a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué, que ça peut être douloureux, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute votre expérience, on se rend compte que oui, c'est une étape à passer, il y a une réflexion, mais qu'une fois que c'est lancé, c'est voilà, il y a une question d'organisation, mais que ça reste un acte qui est bien contrôlé et en tout cas qui est faisable et qui comme vous l'avez dit en conclusion, qui est une option lorsque à un moment donné on n'a pas de visibilité sur son futur projet de bébé pour x ou y raison, on sait que on a cette option de la vitrification ovocytaire. Donc merci beaucoup de votre partage d'expérience et puis on vous dit à bientôt.
À très bientôt.
Au revoir. Merci. Au revoir.
Infertile Cast, the Barcelona IVF podcast.